Bonsoir tout le monde. Alors je vais vous dire un tout petit mot sur Fine Art Studio, qui existe maintenant depuis 8 années, depuis 2003, et qui a réalisé et co-réalisé une petite trentaine d'expositions. On était initialement installé rue Haute, et ensuite on a fait un petit séjour place du Châtelain, pour fonctionner après ça pendant 4 ans sous la forme d'une structure mobile, donc qui organisait des projets dans des lieux différents. Et Métamorphose est pour nous plus qu'une exposition. D'une part, c'est l'exposition que nous présentons dans ce nouvel espace que nous avons inauguré début mars. Et d'autre part, c'est un projet qui est le fruit d'une rencontre avec l'artiste Zimpe depuis plusieurs années. On s'est rencontrés à la rue Haute d'ailleurs. Zimpe est venu se présenter. C'était dans le contexte d'un projet initié par Roger Pierre Turin.
Participé.
Ah, oui. À la FIA.
À la FIA Bénin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et donc, on a exploré au cours de toutes ces années l'univers de Zimpe qui a atteint aujourd'hui sa pleine maturité. Alors, un petit mot sur notre philosophie. Fine Art Studio n'est pas un lieu qui est dédié à la représentation africaine, mais un lieu qui se consacre à l'art contemporain, point, après contemporain. On a une ouverture évidemment à vocation internationale. Les artistes avec lesquels on collabore et on a collaboré sont issus de toute origine, se rattachent à différents horizons culturels et de nationalités multiples. Peut-être que c'est mieux, je crois qu'on aura un peu d'air. Le Bénin, bien entendu, le Japon, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, la France, la Suisse, le Congo, les États-Unis, le Nigeria, etc. Alors pour clore cette exposition qui se terminera ce dimanche 22 mai, on a voulu initier ce nouveau programme qui nous tenait très à cœur et que nous souhaitons intégrer dans chacun de nos projets futurs, afin de permettre au public de rencontrer l'artiste, d'échanger avec lui au cours de cette soirée face à face, que nous inaugurons donc ce soir pour la première fois, et pour laquelle je vous remercie tous d'avoir témoigné un intérêt au travers de votre présence.
Bonsoir à tous. Je suis coordinatrice de projet et de publication chez Fine Art Studio depuis un an et demi. Alors, Métamorphose n'est pas seulement une exposition, c'est aussi une publication. Cette publication présente une sélection d'une cinquantaine d'œuvres de Zimpe depuis ses débuts, tout médium confondu, c'est-à-dire le dessin, la peinture, la sculpture et les installations. La publication réunit également plusieurs textes d'auteurs, dont Roger Pierre Turin, Sandra Delvoye-Bessy et moi-même. Et donc cette publication est en vente au rez-de-chaussée après la rencontre au prix de 30 euros pour les personnes que ça intéresse. Et donc je passe maintenant la parole à Roger Pierre Turin.
Juste une parenthèse, je pense que Roger Pierre et peut-être Dominique vont faire référence à certaines œuvres qui figurent dans la publication. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à prendre un exemplaire en consultation. Tout ça se passe d'une manière informelle. On est entre nous.
C'est un plaisir de parler de Dominique Zimpe et de le rencontrer, de le faire parler parce qu'il parle très bien. Je l'ai connu à Dakar en 2000. Il avait à cette époque-là disposé les fameux taxis Zimpe dans la ville et ça avait impressionné beaucoup de monde. Et puis 2 ans après, toujours à la Biennale de Dakar, avec une installation qu'il avait intitulée « Malgré tout », il obtenait un prix européen. « Malgré tout », c'était l'Afrique sous perfusion. L'Afrique sous perfusion, mais c'était une critique à la fois de l'Afrique et de l'Occident, parce que Dominique est un de ces artistes qui pense que si l'Afrique veut sortir du marasme dans lequel elle est, c'est elle-même qui doit souscrire à ses réformes et à son évolution. À partir de ce moment-là, j'avais j'avais une grande envie de le rencontrer et ça a pu se faire à l'occasion d'Alafia Bena, qui était un festival monté par Wallonie-Bruxelles International. Comme après, il y a encore eu le Congo, notamment en 2007. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui, comme l'a dit Sandra, que Dominique est en pleine maturité. Ça ne veut pas dire que son œuvre est formatée définitivement. Au contraire, c'est un artiste qui est en perpétuelle évolution et qui en fait agit sur tous les fronts des techniques plastiques aujourd'hui à la disposition des plasticiens. Au départ de son œuvre, il avait travaillé sur les structures en fibre parce que tout jeune, il avait été invité à Abidjan et là, il avait rencontré un artiste ivoirien, Christian Latier, qui faisait des sculptures, des masques en cordes. Et il s'est dit donc, il y a d'autres matériaux que ceux qu'on nous propose habituellement. Et il a, lui, trouvé, à partir de sacs de patates, les fibres en lin qui lui ont permis de faire ces sculptures, qu'il ne renie pas du tout, même si nous sommes bien, bien plus loin aujourd'hui avec son travail. C'est à partir de ces sculptures qu'il a démarré son dessin et puis sa peinture, parce qu'il s'est dit, mais au fond, ces sculptures qui représentaient la vie de tous les jours à Cotonou, pourrait être dessiné. Et son dessin, c'est par son dessin, je pense, que j'ai surtout été frappé, parce que ce dessin qui est en perpétuel mouvement, qui est intriguant parce qu'il est empli de mystères, fait que l'on se pose plein de questions et que l'on aimerait en savoir davantage sur les sujets et sur ce qui se trouve derrière ces sujets. Donc je disais qu'il pratiquait plusieurs techniques. En effet, non seulement il est dessinateur et puis il est devenu peintre depuis peu de temps, depuis assez peu de temps, il a agrandi ses dessins en quelque sorte, mais il est aussi sculpteur et il travaille avec un atelier qui officie avec lui. Il est installateur, il fait des installations et il fait des performances. Donc c'est un artiste complet, bien dans la note actuelle, qui en fait veut exprimer quelque chose par son art. Pas question chez lui de formalisme un peu facile, d'esthétisme, même si, comme il dit, moi mes couleurs c'est le noir et le blanc, et quand je mets un peu de rouge ou un peu de bleu, un peu de jaune, qui sont par ailleurs magnifiques, c'est plutôt pour donner une forme plus esthétique. Mais tout est derrière, tout est dans le non-dit, et je crois que c'est à partir d'ici qu'on va pouvoir dialoguer avec lui, parce qu'il a souhaité que l'on parle de la confrontation entre animisme et catholicisme. Pourquoi ? Parce qu'il a été nourri à ses deux mamelles, en quelque sorte. Son père s'était converti au catholicisme et empêchait ses enfants, et Dominique en particulier, de souscrire aux initiations traditionnelles, ce qui ne l'a pas empêché de le faire par la tangente. Et donc, il s'est trouvé confronté à ces deux sortes de religions qui en fait ont la même base de départ, et c'est cela qu'il essaye d'exprimer dans ses tableaux notamment. Tu peux dire un mot à ce sujet?
Oui. On va essayer. Je pense que Roger Piaturine a déjà touché beaucoup de points sensibles qui correspondent à mon travail. Et moi, particulièrement, je voudrais aborder, pour commencer, pourquoi il y a ce thème animisme, christianisme, confrontation. Pourquoi? À mon avis, ce n'est pas réellement une confrontation. C'était une rencontre auparavant. C'était une rencontre de deux cultures qui se sont rencontrées, tout simplement. Mais chaque culture voulant développer son apologie a conservé ses règles et ses codes. Et je suis tombé dans cet univers-là parce que je suis issu d'une famille catholique. Et j'ai très vite compris qu'il y a des codes et des règles, pour ne pas dire des initiations, Alors, le mot initiation, souvent, quand on le sort, on pense toujours à l'animisme. Et moi, je crois profondément que c'est faux. Parce que pour comprendre même la religion catholique, il faut apprendre des prières. Il faut savoir ce que c'est que le culte, tout ce qui accompagne. Je ne peux rien vous apprendre. Donc, le fait que j'ai été enfant de cœur, pour moi, c'était une forme d'initiation. Pour comprendre l'Église catholique de la part de mes parents et le respect qui entoure cette belle Église. Mais après, moi j'ai été confronté parce que je vivais dans une zone qui n'est pas si grande. C'est Abomey, ma ville natale, où nous n'étions pas si nombreux que cela. Mais quand la nuit tombe, le jour naît à nouveau. Alors, nous, tous les jours, on va à l'église. Mais quand il fait nuit, on ne commence pas à entendre des sons de tam-tam. La rue bouge pour certaines ou certaines cérémonies. On se pose des questions. Les parents soyeux empêchent les enfants de sortir pour suivre le bruit de tam-tam pour aller se perdre dans une forêt ou quelque chose qui ne maîtrise pas trop. Je l'ai vécu. Mais par curiosité, vous savez très bien les enfants comment ils sont. Quand on empêche, ça encourage à savoir encore plus. J'ai respecté ma famille pendant un moment donné, mais à un moment donné, c'était tellement fort. Parce que j'allais à l'école. J'étais en classe avec d'autres enfants qui sont réellement dans l'animisme, des adeptes de vaudou, tout ce que vous voulez entendre. Et c'était ma confrontation, première fois, où on expliquait que le Dieu, c'est dans le blanc, le jour. Et le diable, c'est la nuit. Et justement, il y a beaucoup de cérémonies de la nuit. Je ne sais pas pourquoi c'était aussi ainsi conçu. Je n'ai pas vu beaucoup de messes officiées après minuit. Et quand même, il y a beaucoup de cérémonies animistes qui sont officiées à partir de minuit. Donc, il y a une sorte de... Enfin, on pourrait dire confrontation ou bien de cohabitation. Et surtout de cohabitation qui ont existé. Donc, je suis un enfant qui a été né dans cet univers-là. Bon, c'est bien après que j'ai pris un peu conscience de tout ça pour dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie moi-même. Et par curiosité, je me suis approché de ceux qu'on appelle, entre guillemets, des animistes. Qui, pour le définir très rapidement, ils ont une certaine croyance de l'univers. Ils respectent l'air, l'eau, le feu. Et l'au-delà. Donc, ces mêmes enseignements, je les retrouve aussi dans l'Église catholique parce que je lis beaucoup. Et en ce moment-là, j'allais toujours à l'école, j'avais des aptitudes pour faire de l'art, tout ce qu'on vous dit. Mais la conscience est arrivée pour savoir de ce que je voudrais faire de ma vie et dans quelle direction je dois prendre. Et je n'avais pas une seule direction, j'en avais deux. Une qu'on m'avait indiquée, parce qu'avant, quand j'étais jeune, je disais qu'on m'avait imposé. Ce n'était pas imposé, c'était juste indiqué, la religion catholique. Et une autre piste que j'ai cherchée moi-même, c'est la piste animisme. Et j'ai découvert beaucoup de choses qui m'ont appris. Donc, pour commencer vraiment à aborder l'art contemporain, je commence par la première piste. Ma première surprise, c'est l'art. C'est ce qu'on appelle chez les Américains le body painting, peinture corporelle. Je vois des danseuses danser, mais qui sont peintes, entièrement peintes. Et quand je m'interroge, je dis, mais ces peintures-là, pourquoi on peint? Et les symboles, les signes symboles, ça veut dire quoi? Il y a toujours quelqu'un qui m'explique pourquoi exactement. Et moi, je notais simplement et je dessinais toujours. Et pour expliquer cela, je me suis permis de faire un pèlerinage auprès des animistes dont on parle. Des gens qui croient à ce que j'ai précité, les quatre univers qu'ils explorent. Donc j'étais presque un adepte, voulant ne pas être initié, parce que ce n'est pas mon souci d'être initié à quelqu'un de religion pour être vaudouiste, tout ce qu'on veut. Non, moi ma quête c'était de comprendre mon univers immédiat, au niveau de mes recherches plastiques. Donc j'étais heureux de comprendre que la peinture corporelle avait une signification qui avait son sens. Et peu à peu, j'ai compris certaines choses. Et quand je retourne dans mon studio, c'est des choses que j'ai des fois transcrites. Bon, après, il y a des bruits de tam-tam, tout ça. On ne va pas développer tout cet amalgame-là. Mais je pense que je vais vous ramener dans les catalogues qu'on vous a distribués, que Mme Agbessi, de nouveau, a eu l'intelligence de vous partager. On va aborder quelques œuvres qui pourraient expliquer, moi, à mon avis, pourquoi il y a ceci et cela. Avant de rentrer vraiment dans Métamorphose, je vais vous parler de deux artistes contemporains africains et de deux artistes européens que j'ai choisi pour illustrer notre propos de ce soir. Il y a un monsieur que peut-être que certaines personnes connaissent qui s'appelle Tokudagba Cyprien. Et lui, toute sa vie, il a fait que de l'art qu'on pourrait appeler, pour les gens d'extérieur ou intérieur, de l'art animiste. Son travail avait demandé qu'il soit initié pendant 7 ans dans un couvent, sans sortir et apprendre une nouvelle langue. Parce que les formes d'initiation animiste que j'ai su, la petite école, c'est 3 mois. 3 mois juste pour savoir qu'il y a une certaine école qui existe. Après, il y a 3 ans, juste pour apprendre les danses, les langages, les plantes et un peu de spiritualité. Et après cette école, il y a 7 ans vraiment pour la spiritualité. Et on demande à chaque élève qui prétend ou choisit, on détecte leur aptitude. Si quelqu'un est vocalement, il est bien pour chanter, on l'encourage dans la chanson. Si quelqu'un est plus attentif pour écrire, on l'encourage dans l'écriture, oui, pour la mémoire, pour enregistrer, parce que peu de choses ont été écrites pour conserver la tradition. Et notamment, au niveau de la peinture, ça existait très peu. Il se trouve qu'il y a beaucoup de temples de Dieu au niveau des animistes. Alors, il y a des gens qu'ils appellent communément les profanes, qu'on peut avoir à la télé. Quand ils rentrent dans un temple, parce que c'est juste une construction en bois ou en béton ou en d'autres matériaux, quand on ne sait pas, on peut marcher sur un dieu sans le savoir. Donc, il y a cette formation que M. Tokudagba, qui est un artiste majeur du Bénin, son travail, c'est d'annoncer le dieu qui est à l'intérieur des temples. Donc, il a commencé par faire ça, à ses débuts naïvement, ou imposer, c'était ça son travail, jusqu'à ce que l'Occident a découvert que ce qu'il ressortait comme image était valable pour être montré dans les galeries, dans les musées. Et justement, ce monsieur a été montré dans une exposition importante pour la première fois avec André Mayen. Et l'exposition s'appelait « Magicien de la Terre ». C'était la vieille époque.
Et en 89.
En 89, justement. Donc, c'était pour dire simplement qu'il y a des artistes qui ont eu à travailler que sur l'animisme, qui ont également aussi honoré l'art contemporain valablement. Donc, il y a un autre artiste qui s'appelle Romuald Razoumain, qui est dans beaucoup de biennales internationales, Venise, tout ce qu'on veut.
On peut dire que tous les deux sont béninois aussi. Hein.
Exactement. Et lui, par contre, il s'est juste intéressé par ce qu'on appelle le fa. Le fa, c'est la divination. C'est comme les tarots dans d'autres cultures, c'est comme l'astrologie, c'est comme l'horoscope, c'est juste pour lire dans son destin et dans le futur. Et chez les animistes, le fa, avec les compositions de signes, permet de comprendre cela. Et qui est notamment, ça ne venait même pas d'Afrique, ça venait de l'Égypte. Pour ceux qui ont fait des recherches, ça dit même que ça remonte encore plus loin. Mais nous, on a hérité directement de l'Égypte après. Et au Nigeria, on appelle Ifé, et nous les fonds, nos rois ont très vite compris que c'est une science intéressante, se le sont appropriés. Et Romuald Razoumain, sur les 300 et quelques signes, il a essayé de faire des tableaux sur les signes, avec les significations, à quoi cela rendait. Donc c'est un peu pour expliquer dans l'art contemporain, comment pourrait être le poids de la culture et de l'environnement immédiat sur un plasticien. Donc, j'ai fait l'autre de ces deux artistes. Donc, je vais à l'opposé complètement pour parler de Bacon, qui n'est pas africain. Et moi, la lecture, puisque je suis peintre également, que je fais de ces travaux, j'ai le sentiment qu'il travaille sur l'esprit des gens. Parce que quand il peint le corps Chanel, le corps n'est jamais fixe. Le corps bouge tout le temps et je me demande qu'est-ce qu'il recherche ce monsieur, si ce n'est pas l'âme des gens ou son esprit qu'il recherche. C'est l'interprétation que moi j'ai, c'est pour ça que j'ai fait éloge à lui, que j'en parle. Que Bacon a cherché quelque chose, peut-être qu'il a trouvé, n'a pas trouvé, on n'en sait rien du tout.
C'est toujours dans une cosmogonie.
Mais il n'est pas le peintre qui peint un corps. Il peint l'au-delà du corps. Ce qui vibre en nous. Et je m'amuse à dire, si un photographe réussit à photographier l'esprit d'un homme, je vais lui serrer la main. Par contre, le chemin tortueux pour un peintre, si, même s'il le prétend, parce qu'il veut tricher pour dire « je ne suis pas photographe, en peignant, je peux réussir à dessiner l'âme ou l'esprit de quelqu'un. » Moi, c'est ma quête. Je n'ai pas trouvé. C'est ma quête. Donc, si on va revenir au dessin et on analyse tout ce qu'on veut, cette quête-là, c'est une recherche
permanente. Oui, il y a encore Picasso dont il voulait parler.
Picasso, c'est pour résumer. Simplement pour donner un peu de contenance à cette discussion. Parce que c'est étrange qu'on parle d'influence. Moi, je suis catholique, je suis influencé par l'église animiste, enfin, je dis église, mais par l'animisme, si on l'appelle comme ça, ou par le vaudou, les trans, tout ce qu'on veut. Mais on se demande pourquoi Picasso s'est intéressé à des sculptures aussi. Alors, et moi, je suis sidéré par la force. Il n'a pas recherché, encore une fois, l'objet, mais il a recherché l'esprit de l'objet. Et c'est un talent que Picasso a compris, et je ne sais pas s'il a eu des connexions avec les sculpteurs traditionnels, je n'en sais rien, mais on sent que quelque chose s'est dégagé qui est au-delà d'une sculpture qu'on pose dans un musée comme au Quai Branly, au Dapper, chez Picasso.
Néanmoins, je pense que la forme l'intéressait davantage parce que ça permettait de renouveler l'écriture européenne, occidentale, qui était dans une sorte d'impasse depuis un certain temps. Mais les deux ont joué.
Je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais pour finir, ce qui attire l'attention, même pour la forme, c'est la contenance. Mmh. Je pense que Picasso a été troublé par quelque chose.
Sûrement. Tu voulais parler d'œuvres en particulier aussi. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les tableaux de Zinpe sont très dansants. Il y a une énergie étonnante. Et donc, c'est presque comme une danse permanente. C'est la danse des nuits aussi.
Animiste, c'est une pratique. Vaudon, c'est un dieu. Vaudon, c'est un dieu avec petit d. Il y a plusieurs vaudons.
Oui.
Oui. Il y a Sakbata, Sakbata Vaudon. Il y a Rebioso, c'est-à-dire Sakbata, c'est le dieu de la terre. Rebioso, c'est le dieu du feu. Il y a le dieu de fer. Tout ça, c'est des dieux qui ont des adeptes. Ces adeptes-là prétendent, sont adeptes de tel vaudon, de tel dieu. Maintenant, l'animisme, c'est l'ensemble un peu. C'est-à-dire, c'est une croyance qui croit à cette divinité-là. Et il s'en découvre qu'il y a des pratiques animistes. Que aussi bien les gens de vaudon, même les gens qui ne sont pas adeptes de vaudon, pratiquent cela.
Oui.
Je ne sais pas si vous me comprenez.
L'animisme est plus général et le vaudou est...
C'est des divinités.
Parce que... C'est le début des religions en Afrique.
Ouais.
Ouais. Il n'y a aucun Africain qui peut dire qu'il ignore ce que c'est que le vaudou ou l'animisme. Et chez les Européens aussi, avant la religion, ils adoraient.
C'est vrai. Oui.
Exactement. Donc, Abomey, c'est juste une ville. Qui est situé à qui est au Bénin, qui est à 135 km de la capitale économique. Alors, cette fois, j'ai voulu l'appeler Abomey parce que c'est juste pour illustrer l'ambiance de la ville. Et on voit, c'est pas pour décortiquer tous les signes, tous les symboles, c'est juste pour sentir l'atmosphère qui existe dans cette ville où il y a le jour et la nuit, qui pour moi est très important. Et de plus, à Abomey, la nuit vit plus que le jour. Toute décision importante se prend la nuit, et le jour, c'est juste pour exécuter. Au contraire, dans certains endroits où j'ai été, c'est plutôt le jour on travaille et on se repose la nuit. J'ai trouvé étrange que moi, dans ma région, les gens préparent tout la nuit pour officier dans la journée. Donc, dans la journée, réellement, les gens, quand je veux être un peu méchant, je dis que c'est des robots qui bougent. C'est tout ce qui a été dicté dans la nuit. Les gens exécutent juste ça. Du président jusqu'au ouvrier, le garagiste ou ceux qui lavent les voitures. Je ne déconne pas là. Il y a une croyance réelle où les gens pensent à leur journée, même des gens qui consultent avant de commencer une journée, pour dire, bon, ce matin, il faut t'habiller en bleu, parce que ça va être comme ça. Et ceux qui y croient, exécutent. Ceux qui n'y croient pas, font leur vie normalement. Mais c'est juste une question de société. Je trouve que pourquoi les gens accordent autant d'attention à cela? Ils passent autant de temps et se dormir à 2h, 3h du matin pour commencer la journée à 7h le matin pour être efficace dans nos bureaux, pour diriger nos pays. C'est le rôle. Ce n'est pas que... cette influence d'anime, ce n'est pas seulement les artistes que ça va influencer. Ça influence nos pays. Et on y croit. Seulement, il y a peu de gens qui le disent ouvertement. Parce que ce qui est normal socialement, c'est l'Église catholique qui est respectée. Parce qu'il y a l'apologie où quand on parle vaudou animiste, ça ramène un peu vers le diable. Alors, on ne veut pas s'afficher en tant qu'animiste ni rien de cela. C'est plus joli, c'est plus respectueux socialement de dire « je suis chrétien ». Donc la plupart des gens, par hypocrisie, se présentent comme chrétiens. Chose que je ne respecte pas, et ils sont moitié chrétiens, ils sont animistes à moitié de la nuit. Ce n'est pas du tout pour faire l'apologie de l'animisme du tout. Je voulais simplement que les gens soient sincères et assument leurs actes.
Tu parles des gens d'Abomey, précisément.
Non,
des Africains, béninois.
Oui.
Le monde entier.
Oui.
Je ne veux pas aborder l'histoire des ordres. Les ordres, je sais, c'est secret, c'est respectueux, ce n'est pas autre chose. Mais en Afrique de l'Ouest, un pays comme le Bénin, et qu'on sait très bien que cette religion a valeur sur rue. Et d'ailleurs, si quelqu'un a la chance d'aller à Ouida, où on voit le temple le temple des animistes en face de l'église, que les gens ont fait des concessions depuis des années, et que c'est les fidèles qui se mentent, qui font l'hypocrisie pour aller dans un couvent animiste, se cachent pour aller que la nuit, mais moi, je suis désolé. Alors, ma peinture le rende, ma désolation, mes frustrations expliquent mes peintures des fois. Donc, Abomey, que je vous montre, c'est un peu ça.
Le fond noir, c'est la nuit.
C'est la nuit, qui a plus d'existence que sur le fond blanc. Et toute décision est prise du côté gauche de la toile. Et l'implantation au milieu, qui gère la société en verticale. En horizontal, en bas. Et il y a toujours ce symbole, et avant d'en finir avec cette toile, qui est la croix qui est en haut, et je m'amuse à tout le mettre, parce que cette croix, j'y crois réellement. Parce que c'est un symbole qui m'a marqué en étant catholique. Et la croix avec son symbole, et ça m'a appris beaucoup d'interdits. La manière dont j'ai ressenti l'Église catholique, il y a beaucoup d'interdits. Et c'est bien après que j'ai découvert qu'auprès de d'autres religions, il y a aussi beaucoup d'interdits. Donc, à partir du moment où je travaille et que je sens qu'il y a des choses que je dois dire qui sont interdites de dire, je mets souvent une croix. Pour moi-même, pour dire, c'est mon propre calvaire. C'est interdit, mais quand même, je le signale.
Mais en même temps, dans tes tableaux, tout se centralise autour de la dynamique et des corps qui sont en mouvement perpétuel pour... On peut très bien ressentir cette toile profondément sans connaître toutes les clés.
Oui, mais quand vous amusez à ce que je parle un peu, alors je parle.
Oui, mais tu parles très bien. Tu parles très bien.
La dissociation entre l'âme et l'esprit, c'est encore des recherches que beaucoup de scientifiques n'ont pas réussi vraiment à définir encore. Mais on va y arriver quand même à continuer à discuter avec ça. Parce que moi-même, je suis flou avec l'âme et l'esprit, selon les religions, certains ont plus d'importance que d'autres. Mais cette quête est fabuleuse, je pense. Kudyo, c'est ma langue maternelle, mais ça voudrait dire en français, on change sa mort, ou on déplace sa mort. Et moi, j'étais surpris de voir qu'il y a des personnes ou des gens malades et on prétend, parce qu'on est malade ou on sait qu'on doit mourir de toute façon, on essaye de transposer, soit c'est une maladie ou c'est un envoûtement. Bon. Mais ce qui est sûr, le verdict, c'est que la personne doit mourir d'ici à là. Et pour le savoir, soit c'est médicalement, le docteur le pense, ou le chirurgien, ou c'est un cancer, on sait. Ou c'est spirituel simplement, où on dit que quelqu'un, on lui a envoyé un sort, il est malade, et ce qui est sûr, il ne vivra pas encore 2 ou 3 jours, voire 1 semaine. Et il y a une certaine pratique qui ramène à cela. On dit, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. La personne va décéder, c'est clair. Mais on transporte la maladie qu'il a dans le corps d'un animal. L'animal meurt, il va vivre. Et on va prendre l'énergie de l'animal, on va lui redonner, alors il vit sa vie. Et vu le monde contemporain occidental, bon, il y a des transplantations, il y a tout ce qu'on veut, pour encore vivre longtemps, mais je n'ai pas encore vu des greffages de cœur ou changer de poumons chez les animistes. Donc il y a cette cérémonie notamment, je ne voudrais pas faire l'apologie encore une fois pour dire ça a marché ou ça n'a pas marché. Rien, ce n'est pas mon job. C'est que j'ai vu des choses semblables qui m'ont étonné. Où il y a transposition de maladies d'êtres humains dans un corps animal pour que l'autre vive à travers des cérémonies qui s'appellent, dans ma langue maternelle, Kudyo. Et en Afrique de l'Ouest, ça va du Sénégal jusqu'au Mali. Ça existe. Ce que j'ai souhaité pour mon travail, ce n'est pas parler du vide, c'est de parler de l'essentiel de mon entourage immédiat et c'est des choses qui s'imposent à moi, que je ne veux pas regarder ou non. Alors, ça m'amène à faire des dessins ou à m'intéresser pour finir le rendement dans ces genres de peintures. Maintenant, en parlant de... Je vais vous ramener sur une de mes sculptures. Et celle que je voudrais vous montrer, elle n'est pas ici, mais on pourrait l'imaginer. J'ai fait une croix, juste un crucifix, qui avait des statuettes, comme dans cette formule, dans ce travail-là, pour parler de la croix, simplement. Mais là, on a quelques sculptures qui ramènent encore à cela. C'est-à-dire, quand pas d'église, je pense que j'ai un témoin dans la salle aujourd'hui qui peut en témoigner. Que nous avons les mêmes connexions d'idées. Quand on parle d'église, il y a aussi une forme d'unité, toujours. Et des croyances d'ensemble des gens qui croient à la même chose. Pareil pour les animistes qui ont une certaine croyance. Alors, moi, je me suis amusé, puisque je m'intéresse aux deux, à créer des sculptures, mais à partir des individus. Sinon, si je dois me répéter encore une fois, je réalise des sculptures à partir d'autres sculptures qui existent. Et ces sculptures-là, les petites statues que vous voyez, c'est des signes et symboles qui existent. C'est-à-dire, en fait, c'est des cultes des jumeaux. Et c'est les seules cultures que j'ai trouvées en Afrique, de l'Ouest en tout cas, qui correspond plus, qui est plus proche de l'être humain. C'est-à-dire que c'est juste un homme, une femme, taillé simplement comme ça, mais qui sert pour un culte spécial, culte des jumeaux. Et c'est une histoire un peu douloureuse, c'est-à-dire ici, les parents perdent des jumeaux à la naissance, d'une manière psychologique, pour remplacer la douleur, on fait l'échange avec des poupées, et c'est deux ou trois ou quatre, et les parents gardent ça soigneusement, les pouponnes, ces poupées, ces figurines, les font manger pour dire que les enfants ne sont pas partis, ils sont encore là. Donc ça, soyez beaucoup de personnes, donc c'est une forme de tradition vraiment thérapeutique qui ont aidé beaucoup. Et moi, je me suis intéressé à ces petites statuettes, pas forcément pour le culte et le rôle que ça joue au niveau culturel, mais notamment pour le symbolique. C'est juste un homme, une femme, comme nous tous. Donc, je prends comme base pour faire d'autres sculptures d'ensemble. Alors, je suis dans un univers, quand je pense, en parlant d'animiste ou de la religion et tout, ou bien même de l'islam, ou des courants de croyances, ce qui me sidère, c'est comment les gens sont si solidaires et se mettent ensemble. Et ça, c'est une épreuve pour moi par rapport à l'être humain, par rapport à l'isolation ou à sa place dans la société et dans quel camp on voudrait rentrer. Donc, justement, les sculptures que je réalise comme ça posent cette question. La cohabitation et comment exister. Je suis tari de mots. Je ne sais plus quoi dire.
Question. En fait, tu t'es réapproprié, ce qui est important de dire. Il n'y a rien de cultuel au travers de ces sculptures contemporaines. Tu t'es réapproprié la figurine proprement dite pour l'exprimer au travers de ton art et exprimer ton questionnement.
Et par ailleurs, tu es un roi des jumeaux.
Ah.
En quelque
mais
sorte.
Ça, c'est
autre chose.
Ça, c'est intime, oui. Ouais. C'est intime, mais ça a son sens profondément.
Et pour Benin, paraît-il, les jumeaux, ils sont maîtres des cérémonies.
Les jumeaux au Bénin, c'est considéré comme un demi-dieu. Que quand les premiers sont arrivés, les gens ne savaient pas trop comment on peut avoir deux enfants ou quatre.
Au Bénin, au Togo, au
donc,
Nigeria.
Voilà.
Oui.
Donc, ce qui était sidérant, c'est que ce culte, ce n'est pas que au Bénin. Ça a pris du Nigeria, c'est les Ibedji. Mm-hmm. Au Bénin, c'est les Roro. Au Togo, les Venanvi. Au Ghana aussi, les Venanvi aussi. Donc, comment se fait-il que des régions différentes qui ne se concèdent pas ont voué les mêmes cultes? C'est ce que j'ai trouvé sidérant. Mais plus loin, dans d'autres régions que je ne vais pas citer, parce que l'histoire qui est arrivée aux jumeaux est un peu malheureuse, quand les jumeaux sont arrivés, on dit que ce n'est pas normal, ils ont tué. Ils les tuent à la naissance. C'est pour ça que je fais tel le nom de ce pays, par respect pour ça. Mais après, ça a bien changé. Donc, c'est juste considéré comme aussi bien les bossus. C'est d'autres choses qu'on aborde. Parce que j'ai compris quelque chose dans ma région africaine, que chaque chose a une explication. Les gens ont essayé d'arranger les gens de la société pour vivre mieux. Parce qu'il y a notamment les gens qui sont mal formés, qui sont nés. Et il y a certaines personnes qui pensent que c'est des dieux aussi. Parce que c'est, à mon avis, d'une manière de réflexion, c'est aussi une manière de les faire intégrer dans la société pour qu'ils ne soient pas un reste. Donc, bref. Moi, depuis à peu près 5 ans, j'ai commencé réellement à m'intéresser à ces figurines-là pour faire des sculptures et aussi pour dire que, d'une manière générale, il ne faudrait pas qu'on essaie toujours de porter le regard culturel sur l'art africain. Mm-hmm. Parce que c'est bien, nos grands-parents, ils ont travaillé, ils honorent des musées d'art ancien qui est encore respecté dans le monde. Et nous, nous sommes sur leurs traces, mais nous sommes dans l'ère contemporaine, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas nécessaire d'enfermer les objets. Les objets peuvent évoluer. Moi, quand j'ai le regard que j'ai aujourd'hui sur ces figurines, je les vois autrement. Donc, ça sera maintenant comme ça. Alors, si dans 200 ans, les gens vont regarder mes sculptures, bon, bien sûr qu'il y a 200 ans, c'est comme ça que quelques artistes comme Dominique Zimper, Romain Razoumain, Tokudagba, c'est comme ça qu'ils ont pensé du Fa. Donc, tout est en mutation et en évolution, exactement comme nos grands arrière-parents ont été en mutation. C'est comme ça qu'on a eu des objets fabuleux. Donc, moi, je n'ai aucune honte de puiser dans mon puits à pétrole africaine pour sublimer du nouveau. Alors, beaucoup de gens me posent la question, mais parce que moi, ce n'est pas moi qui tais toutes ces figurines-là, une par une. Au début, j'ai commencé, j'ai renoncé très vite. J'étais avec deux villages importants au Bénin. Un village à Porte-Nouveau, un village à Abomey, qui habituellement le réalise. Donc, ils font partie de mon atelier maintenant pour me fournir mes sculptures et j'en crée d'autres. Et la question était déjà posée, mais qu'est-ce qu'eux, ils en pensent? Et je suis content parce que peut-être que là, on est en train de préparer un film qui va sortir, de voir comment on peut travailler avec toute une société comme une église pour créer encore de nouvelles choses. Ils m'ont pas encore dit, bon, sinon c'est le film qui va le dire, que je blasphème. Parce que c'est vrai, quand on touche à quelque chose, aussi bien, quand je prends l'exemple de la croix, du crucifix, que je mets dans un texte, dans un travail, à une des pages ici que je vais vous montrer, des fois, ça peut être choquant. Ou c'est comme si on ne respecte pas. Et c'est important de dialoguer autour. Et moi, à mon avis, je ne pense pas que j'ai fait un travail pour choquer quiconque. Peut-être naïvement, je ne sais pas, pour me défendre. Donc c'est pareil pour les animistes, c'est-à-dire, je leur parle. Parce que habituellement, les gens achètent ces figurines deux par deux pour les cérémonies spéciaux. Moi, je les achète par mille. Donc la question se pose, mais qu'est-ce que tu veux bien en faire, Dominique? Donc voilà, le résultat est là devant vous.
Et là, moi, comme je vais voir une pièce romaine, germanique ou la période byzantine, je m'en fous complètement de l'utilisation à l'époque religieuse ou pratique de cette pièce. Je regarde sa facture, sa beauté. Donc là, je pense qu'il y a des artistes qui refusent de rentrer dans ce jeu. C'est-à-dire qu'on a cette vision ethnographique, une lecture ethnocisée de l'art d'Afrique.
Vous avez raison complètement. Parce que si on rentre dedans, c'est stérile cette discussion. C'est stérile parce que déjà, ce débat a eu lieu pendant plusieurs années, on n'a pas d'issue. Déjà, tu es artiste africain, on s'attend à ce que tu fais de l'art africain. Ça voudrait dire quoi, l'art africain? Et donc, je pense que les artistes les plus intelligents aujourd'hui qui évoluent bien, c'est que justement, on ne peut pas renier d'être africain. Je ne peux pas comprendre qu'un Français renie qu'il soit Français, ni un Japonais d'être Japonais. La question n'est pas là. La question est justement l'étiquette qu'on veut coller. C'est-à-dire, au moment où, comme il vient de dire monsieur, qu'on voit une pièce, on veut voir juste sa beauté. Et après, si on découvre que c'est un Africain qui a fait, ou si c'est un Belge, je ne sais pas, oui, c'est encore intelligent. Mais il y a forcément, moi j'ai déjà eu cette expérience là où les gens sont déçus de me rencontrer finalement quand ils ont vu mes peintures, d'abord avant de voir la tronche de la personne. Parce qu'on pense que ce n'est pas un Africain. Et c'est la déception, c'est qu'on pense qu'il n'est pas de là. Et pourquoi il peint comme ça?
Moi, j'ai eu quelqu'un qui pensait que tu étais une femme aussi.
Donc, mais ça arrive. Donc, vous voyez, donc, ça, c'est pour ça que c'est stérile. On ne peut pas se focaliser trop. Moi, à mon avis, c'est dit, chacun a son langage et il est sincère. Donc, pour finir... Exactement.
Jamais eu de frontières.
Justement, c'est pour ça qu'on est encore libre.
On peut voir faire quelque chose en Afrique et se retrouver au bout du monde avec un autre artiste. Il fait pareil.
Et l'important, c'est la force du trait qui se dégage. On sent quelque chose, même si on ne comprend pas tout à fait.
Est-ce qu'il faut comprendre, forcément?
Non, voilà, il faut avoir un choc.
Donc, pour ne pas vous fatiguer encore plus longtemps, c'est la dernière pièce qui s'appelle Ma poule, qui est sur un crucifix. Et c'est aussi une confrontation. Et ce mot.
Elle se trouve ici en bas.
Ma poule, c'est pas moi qui l'ai inventée. J'ai entendu dire, entendu dans la bouche de beaucoup de messieurs, appeler leur copine ma poule. Ma poule, ma poulette. Oui, et ça, ça m'a toujours.
C'est
ça. Et quand j'entends ça, ces jolis mots, je dis, mais ma poule, la poule que moi je connais, c'est une chair à croquer. Une chair à bouffer, c'est tout. Donc ça ramène un peu au côté masochiste de. Vous savez très bien de quoi je parle, de une chair à consommer. Alors, j'ai un projet d'écriture, de chemin de croix, et qui va exister dans une église. Alors, le chemin de croix, comme je m'amuse toujours à dire, je dis Jésus, ce n'est pas lui seul qui a porté sa croix. Nous portons tous notre croix. Bon, c'est des jeux de mots comme ça qui m'intéressent, mais. Alors, il y aura chaque station de chemin de croix, et celle que je donne aux grandes dames, le calvaire, parce que c'est chemin de croix, c'est presque un calvaire, des stations. Ceux qui sont catholiques savent très bien, il y a 14 stations, il faut s'arrêter, il faut prier et continuer, et ça dure des heures. Et donc, une de mes stations, c'est cette pièce. Je pense que c'est la croix que la dame porte, premier regard du corps Chanel avant l'intelligence, malheureusement. De ma poule. Pourquoi ma poule? Ah, je l'ai rendue, moi. Oui, je suis chaotique, c'est comme ça. Mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Il faut qu'on appelle les dames autrement que ma poule.
Oui. En fait, tout ton art se focalise autour de la condition humaine.
Ça, c'est la fleur de peau.
Et quand tu peins, tu...
C'est pareil.
Tu es crevé à la fin parce que tu t'es complètement vidé dessus.
Pourtant, ce n'est pas physique, mais je suis
non,
vidé.
Non, mais, oui.
Donc, Monsieur Roger Piaturine, je vous demande d'ouvrir le...
Oui. Est-ce qu'il y a des questions plus précises ou des prolongements que vous souhaiteriez avoir par rapport au travail qui a été circonscrit ici autour d'un thème particulier, mais le travail de Dominique est bien plus vaste. Il est politique, économique, tout, avec les performances et tout ça, où tu t'es profondément attaqué à la société.
Oui, aussi.
J'ai une question parce que on a expliqué que quand tu peignes, tu as fait une sorte de danse devant la toile avec beaucoup d'énergie. Et donc je suis quand même aussi, je veux dire, peut-être une sorte de transe.
Ça, c'est un mot, je suis content que vous l'avez sorti, ça me fait plaisir. Les trans, j'ai connu dans les deux milieux. Dans l'église catholique, il y a des prières qu'on a fait jusqu'à ce que les gens tombent en trans. La dévotion même. Et chez les animistes, pareil. Dans un groupe de 300 personnes, des invités même, je ne parle pas que des gens, qui sont animistes profonds, qui sont autour, qui entendent des tam-tams, des sons, qui tombent en transe. Alors, pour expliquer cela, on m'a dit, ça te prend. C'est-à-dire, quand ça, la transe, c'est l'esprit qui s'exprime, ce n'est pas le corps. Et c'est des expressions, c'est l'esprit qui dirige le corps. Le corps n'a plus valeur. Habituellement, vous savez très bien, c'est le corps qui écoute, qui entend, qui dit non, en fait, je vais dans telle direction, je regarde telle chose. Mais là, ceux qui sont en train ne savent même pas ce qu'ils font, ce que l'esprit fait de leur corps. Alors, et si aussi bien, ça m'a beaucoup intéressé. Donc, et la transe, aussi dans l'art pictural, existe. Et je me permets. Pour répondre mieux à votre question, d'avouer quelque chose, j'ai toujours peur de la toile blanche. Quand je suis devant une toile blanche, je me demande qu'est-ce que tu peux mettre bien là-dessus. Pourquoi tu t'arranges à t'asseoir pour mettre une toile blanche devant toi, pour dire quoi et pour faire quoi. Et j'ai eu une chance formidable, je ne sais pas nager. Et pourtant, je rentre dans la mer pour avoir mon propre plaisir, mais à côté, pour ne parler trop loin. Mais je sais très bien que je rentre dans la mer. Si je vais loin, je vais me noyer. Et cette peur viscérale où je ne vais pas jamais loin dans la mer, devant toi, ça me revient toujours. Mais à un moment donné, il y a ce qu'on peut appeler trans ou ceci, où ça s'engage. Et quand on en ressort, heureux ou malheureux, on n'en sait rien. Mais au moins, c'est des moments d'extase où on y va sans contrôle, avec beaucoup de respect. Mais c'est le début, il y a le respect et la peur. Donc, c'est pour cela que je dis toujours, je ne peux pas dire que je suis vraiment un peintre. Je pense que j'ai maîtrisé le dessin. Un petit papier sur une table, je peux dire que je dessine. Mais peintre, non. Là, je...
Point de hasard à la surface de la toile. Il y a quand même des moments où ça ce n'est pas.
Mais quand je vous ai donné l'exemple de la. Quelqu'un qui ne sait pas nager qui est dans la mer. Après, on a les contacts. Mais c'est pareil, une fois que c'est dedans, il n'y a plus de renoncement, à mon avis. C'est-à-dire, donc, c'est vrai, il y a certains artistes qui disent qu'ils exécutent des toiles. Et c'est un mot que j'ai trouvé fabuleux. En même temps, ça me fait peur, ce mot. On s'exécute mutuellement. C'est-à-dire, c'est comme un acte méchant. Ça veut dire que la personne a tellement peur et tue la toile. Il s'en ressort régaladi.
Oui, et puis je pense que c'est une démarche.
On n'exécute pas une toile. On compose avec une toile, on s'entend.
Pense à tout artiste.
On s'entend et on se comprend, on se parle. Il y a des trans que j'ai eues et je me retrouve et que mon épouse a eu peur de moi quand je parlais à mes toiles. Oui. Parce que moi, je n'ai pas compris que je parlais, mais on se parlait, je dis pardon, mais je veux ça, mais ça sort verbalement, je n'aurais pu le dire intérieurement, mais c'est sorti, et j'ai parlé, et m'a dit, mais tu deviens dingue, maintenant tu parles avec une toile. Bon.
Bon, il y en a qui parlent à leurs plantes hein, aussi.
Donc, ce n'est rien d'extraordinaire, c'est juste quelque chose de fusionnel et...
Tu as des personnages qui reviennent assez souvent. Ce sont des personnages qui sont dans ton imaginaire ou...
J'ai fait un long travail, dont Roger est témoin, sur les tripes, notamment. Et c'est un sujet un peu, pour moi, un peu compliqué. Enfin, pour moi, pour le faire, ce n'est pas compliqué pour moi, mais pour le public, c'était compliqué. D'ailleurs, c'est la pièce que j'ai moins vendue dans ma vie, parce que personne n'en veut. Et bon. Parce que j'avais abordé le thème de l'enfantement et des tripes. Et ce qui se passe, c'est des choses qui sont tellement intimistes qu'on n'aime pas montrer, comme une table d'accouchement. Et on veut toujours dire que nous existons parce qu'il y a accouchement. Mais pourquoi on ne veut pas regarder l'accouchement?
C'est la peur du sang.
Exactement. Donc, c'est nous-mêmes. Il y a des choses qu'on veut bien voir et des choses qu'on ne veut pas voir aussi. Donc, moi, c'est quand même une démarche aussi de témoignage de vie. Parce que ce n'est pas pour... Comment on dit ça en français? Je ne suis pas exhibitionniste. Voilà. Ce n'est pas du tout le sens. Mais c'est des choses qui...
C'est un témoignage.
Oui, un témoignage. Mais qui me parle et que j'ai envie de savoir quand même... etc. Donc, il y a tout un travail, toute une série sur les tripes aussi.
Une petite question. J'ai l'impression que dans certaines de vos œuvres, vous visez beaucoup une esthétique, presque une beauté. Comme par exemple ce tableau de Luther. Et dans d'autres cas, plus que l'esthétique, vous visez du symbolisme. Je ne sais pas si je me trompe.
Je pense que vous avez raison. Et d'abord, je recherche l'essentiel. Je commence par les dessins où je dessine juste l'essentiel sans fioriture. Et c'est peut-être après qu'il y a un peu d'esthétisme, c'est-à-dire arranger un peu la toile pour qu'on puisse regarder. Sinon, ben, ça je me le promets encore dans quelques années parce que si vous aviez vu mes toiles il y a à peu près 10 ans, c'est complètement autre chose. J'avais beaucoup d'énergie. C'est beaucoup de couleurs, même c'était de l'art gestuel où on peint. Maintenant, j'essaie de revenir juste à l'essentiel Et encore, ça me poursuit un peu. Donc, il y a encore un peu de couleur, mais en même temps, des fois, les couleurs m'interpellent. Donc, je ne pourrais pas dire que c'est pour faire plaisir au regard ou juste pour l'esthétisme. Non, c'est mais... que les, certaines couleurs ont leur sens, à mon avis, qui sont encore récurrents. Peut-être en vieillissant, parce que j'ai appris une bonne leçon. Pour avoir les meilleurs grains, il faut beaucoup tamiser. Et juste les meilleurs grains restent, mais pour tamiser, il faut... Donc, je suis dans une période, et je ne commence pas à tamiser, je n'ai pas encore atteint complètement ce auquel j'aspire. Mais ça viendra, peut-être que vous aurez que des dessins sobres. Mais peut-être si Dieu me prête vie, c'est pour mes 80 ans.
De toute façon, forme et fond s'harmonisent dans les meilleurs.
Mais là, j'ai beaucoup de choses à dire, avec beaucoup d'énergie, donc je peux m'arrêter. D'ailleurs, c'est ce qui explique que j'ai beaucoup de médiums, autant la sculpture, autant la peinture. Et il m'arrive de faire aussi des performances, mais ce n'est pas le propos ce soir. Mais le propos de ce soir, c'est cette histoire d'influence, comment on peut être formaté par son environnement. Et j'en suis un produit de cela, par le christianisme et l'animisme.
J'aimerais réagir par rapport à ça. Il y a toujours une dualité comme ça, à croire qu'ici en Occident on vit des religions monothéistes, c'est complètement fou.
Oui, oui.
La vie, la société multiculturelle dans laquelle on est complètement polythéiste, elle est culturelle de plus en plus. Quand Dominique, les gens parlent de la vie nocturne, des gens qui se préparent la nuit pour le jour, mais on a ça dans nos vies ici continuellement. Mmh. Continuellement, les gens qui sortent en soirée électro toute la nuit et qui le lendemain vont au travail, c'est exactement ça. Il y a plein de choses nocturnes qui s'y décident pour le jour par d'autres relais. Il faut arrêter de croire même que la religion catholique est si monothéiste que ça, c'est pas si vrai. Il suffit de voir en Amérique du Sud ce qu'elle est devenue. Il suffit de voir le retour des religions évangélistes ici aujourd'hui. Tout ça bouge complètement. Donc, c'est ça qui est. D'ailleurs, tu ne dis pas autre chose dans ton travail, c'est exactement ça. Mais ce qui est intéressant, c'est au lieu de se braquer sur. Enfin, de se braquer, de ne penser dans un système post-colonial que à l'Afrique, réfléchissons à ce qui se passe ici aussi, parce que ça se retourne complètement.
Tout à fait.
Oui, oui. Et comme vous le disiez tout à l'heure, que ce soit l'art ou la religion, dans le monde entier, on retrouve des paliers qui sont les mêmes partout.
Tout à fait.
Mais il faut arrêter de penser qu'on est dans une religion ici monothéiste pour ceux qui sont encore religieux. Et même la laïcité et même l'écologie actuelle devient sur le polythéisme aussi, je pense. Le rapport entre l'écologie contemporaine de nos sociétés occidentales et le vaudou, le rapport aux animaux, le rapport aux plantes, le rapport à la terre, on est en train de revenir vers ça, clairement. Et l'Afrique, il apporte sa contribution, notamment par les médecins qui commencent à comprendre, les plantes médicinales, les sociétés pharmaceutiques qui commencent à comprendre la connaissance puissante que l'homme a de la terre, notamment
des Afrique, des guérisseurs qui parviennent à guérir uniquement en donnant des trans.
Et
ça aussi, tu le trouves chez les catholiques.
Je retiens. Tout à fait, oui. J'ai retenu deux mots dans ce que vous dites. Parce que le laïc, c'est très important. Parce que mon environnement au Bénin, c'est un environnement vraiment laïc, où les religions sont tolérées. Et il y a un culte qu'on appelle le culte de totem. Pour parler, parce qu'il m'est arrivé de faire beaucoup de totems en sculpture. Alors, ces totems-là, ça rejoint vraiment l'écologie. Pour expliquer simplement, ça amène des gens à croire à une plante, à un animal, ou à un arbre, tout ce qu'on veut. Et ce qui fait que ceux qui croient protègent ce arbre jusqu'à la fin de leur vie, génération après génération. Donc, ce qu'on appelle le culte des totems. Pour dire simplement, si quelqu'un voue un culte pour le requin, il mangera du charme du requin. Ça va l'amener partout où il est à protéger le requin toute sa vie. Si c'est le serpent python, c'est leur job. Et ça fait qu'il y a des compartiments de gens qui protègent certaines choses, baobab, etc. Donc, ce culte m'a sidéré. Donc, le totémisme, j'ai beaucoup travaillé sur ça. Donc, ça fait que les gens se partagent des rôles pour un certain équilibre social. Et ça, c'est profondément les animistes qui ont vraiment développé cela. Et j'ai trouvé ça fabuleux, simplement. Donc, je vais raconter une petite anecdote, là. C'est-à-dire, il y a une personne qui était dans le nord du Bénin. Et il y a quelque chose qu'on appelle les cadenas, les antivols. Les antivols, c'est quelque chose de très banal. Si on vous dit, c'est peut-être un petit bout de bois attaché avec une ficelle. Et c'est souvent des paysans qui l'utilisent beaucoup. Ces antivols-là, ils mettent à l'entrée de leur champ, peut-être avec un fil rouge, pour dire que bon, maintenant, c'est prêt, mais ne prenez pas parce que c'est à moi, ce champ, c'est prêt, mais ne prenez pas. Parce qu'il n'y a pas de clôture souvent. C'est un abro, tout est permis. Mais le fait de mettre ce cadenas qui est accroché permet au public, aux gens, de dire, bon, ça, il a mis, on ne touche pas. Mais par contre, il y a d'autres qui sont sans cadenas, c'est-à-dire les arbres fruitiers, tout ça, parce que c'est que quelqu'un a faim, bien sûr, il va manger, il ne peut pas mourir de faim. Bon, d'autres espèces laissent un petit bout de champ libre pour que les gens mangent s'ils ont faim, etc. Et quelques territoires mettent le cadenas. Bon, je reviens à l'essentiel. Donc, il y a une jeune dame qui a passé environ un an et demi dans le nord du Bénin, qui était fascinée par les cadenas dont je parle, parce que c'est des objets qui ont environ 10 cm de haut au maximum, mais assez jolis, faits manuellement. Donc, elle les a collectionnées toutes. Donc, quand elle se lève le matin, elle trouve sur son chemin, elle prend, elle tape son mur de la maison avec cela. Donc, j'étais dans un voyage en Allemagne, et j'étais, parce que je suis béninois, là, c'est que je viens du Bénin, elle m'a invité dans un dîner, j'ai vu, je dis, ah, elle était heureuse de me montrer sa collection. Je dis, mais il y a, c'est quoi? Donc, mais, elle s'est pas sentie comme une voleuse ni rien, elle dit, non, mais j'adore ça, j'ai pris, je lui ai expliqué, je dis, mais ce que tu as pris, je vais t'expliquer ce que tu as pris. Ce que tu as pris, c'est comme si moi je viens parce que j'aime beaucoup installer. Et dans les feux, dans les carrefours, je suis intéressé par les feux tricolores. Je prends, j'enlève, j'amène dans mon studio. Et je fais mon œuvre artistique avec ça. Mais le lendemain, quand ils vont passer, les voitures vont se coller plein parce qu'ils savent qu'il y a des feux tricolores qui sont là habituellement. Quand il n'y en a pas, ils vont foncer. Alors, elle a pris quelque chose qui n'a pas vraiment valeur marchande, mais qui a une valeur sociale très importante. C'est des codes sociaux parce que, et ça, j'imagine, tous ces gars-là, les gens ont pillé leur champ parce qu'ils n'ont pas de cadenas. Si on attrape un voleur dans un champ comme ça, on ne l'attrape pas parce qu'il n'a pas de cadenas. Oui, c'est un code social, tout le monde respecte ce code-là. Donc, cet objet-là, mais pour eux, c'est un trophée. Mais ce trophée n'existe pas, ça n'a aucun sens en Allemagne. Pardon. Je pense que les religions ne se rejoignent pas forcément, mais nous avons quand même les mêmes bases. Et pour parler vraiment de l'art plastique, on ne peut pas trop non plus tricher. Il m'est arrivé aussi de travailler sur la religion musulmane, mais ça a failli coûter ma vie. Parce que j'étais invité dans une résidence pour faire un travail au Niger, qui n'est pas loin du Bénin. Et c'est un pays fortement musulman. Et j'étais au marché, j'ai trouvé des ardoises. Les ardoises dont on parle, c'est des plateaux de Coran pour écrire. Et j'ai des tablettes et j'ai trouvé cet objet assez tellement fabuleux, beau.
Oui.
Pour moi, c'est un objet précieux.
Oui.
Donc, j'ai voulu faire une installation des ardoises, mais je partais vraiment dans l'idée du respect de la religion, parce que l'objet déjà me plaisait. Donc. Mais j'ai fait une faute formidable. C'est que quand je travaillais dans la cour du centre culturel, c'était devant tout le monde, j'ai installé mon atelier, j'avais ma bouteille de bière à côté. D'où vient le blasphème de l'ardoise? Je n'écrivais rien de Coran, parce que je ne sais même pas écrire le Coran. Mais l'ardoise, j'essayais de faire des dessins sur ça par rapport à l'environnement qui était là. Mais je n'ai pas pensé d'isoler la bouteille de bière avec les tablettes pour le travail. Alors, les gens se sont soulevés peu à peu. Venez voir le directeur du centre culturel pour dire, mais là, qu'est-ce qu'il fait avec notre tablette? Il boit, il touche la tablette, quelque chose qui est précieux. Moi, j'ai beau dire que j'ai acheté sur un marché, on m'a dit non. Tablette, c'est tablette. C'est pour dire que confrontation, ce n'est pas que christianisme et animisme, c'est-à-dire confrontation, quand on touche un objet précieux d'une religion, ça a toujours sa valeur et son sens. Et je respecte profondément les gens. Bon, on s'est compris finalement, j'ai demandé excuse, pardon, pour que je n'ai pas exposé. Mais finalement, ils ont tellement été généreux, ils m'ont laissé toutes les pièces. Pas avec ça. Mais j'ai appris une bonne leçon, parce qu'ils ne touchent pas. Et ils m'ont même expliqué, avant de toucher, il faut se laver. Donc, il y a plein de choses qui sont derrière. Donc, ça m'a permis aussi de comprendre un peu mieux la religion musulmane. Donc, je pense quand même que ce qui nous manque, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on respecte l'autre pour être bien. Si je veux juste respecter ça, je n'aurai aucun problème pour finir mon travail. Donc, on parle de confrontation, mais aussi c'est rencontre. Mais rencontre fait confrontation et forcément.
Bon, je pense que voilà, on va terminer ici, mais il y a encore moyen de parler
plus intimement,
de façon informelle. Merci beaucoup.
Merci.
Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.